Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing, pour parler aujourd'hui d'IndyCar pendant quelques instants et de NASCAR, parce qu'on a beaucoup trop de choses à dire en NASCAR. Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy, salut Lilian et bonjour à tout le monde.
Allez, Lilian, on commence tout de suite avec l'IndyCar.
L'actualité tricolore.
C'est ça, il n'y avait pas de course, il n'y en aura toujours pas ce week-end. Mais bon, on a un petit peu d'actualité en IndyCar. On n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière parce qu'on avait déjà enregistré l'émission, je crois. On a Sébastien Bourdais qui a signé chez AJ Foyt pour les trois dernières courses de la saison et surtout pour l'intégralité de la saison 2021.
Et ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il revient à plein temps en IndyCar. On l'a vu ce week-end aux 24 heures du Mans au volant d'une Ferrari, puisque le programme Ford s'est arrêté.
Ouais.
Et puis ben voilà, on aura le plaisir de le revoir au volant d'une IndyCar à temps complet.
Oui, effectivement. Et puis chez Foyt,
c'est pas ce qu'il y a de plus compétitif, faut être honnête. Mais il nous a montré par le passé que même en n'ayant pas l'une des meilleures voitures du plateau, il était capable d'aller nous chercher quelques belles perfs, même en s'élançant de loin.
C'est ça, on parle de Sébastien Bourdais qui est capable de gagner avec une monoplace de la Delcoin. Donc avec une monoplace de chez Foyt, ça peut être intéressant. Aloïs, est-ce que tu as un avis sur Sébastien Bourdais qui revient à temps plein en IndyCar ?
Bah, déjà, évidemment, c'est une excellente nouvelle pour le pilote français. Ça, on est tous d'accord pour dire ça, mais je pense que c'est surtout un changement majeur dans la carrière de Sébastien Bourdais, puisqu'il était affilié à la Delcoin depuis très 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 longtemps, et là il part chez LG Foyt, donc c'est quand même un changement de structure, c'est pas anodin, et qu'il trouve un volant pour la fin de saison et la saison prochaine, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il puisse s'acclimater dès 2020 pour reprendre la saison 2021 à fond les ballons.
D'accord, ok. Bah écoute, on verra ça C'est quoi, c'est le week-end prochain déjà, Indianapolis ? Oui, c'est ça, c'est dans une dizaine de jours.
Double header.
Avec le cinquième double header de la saison. Et l'autre actualité, Lilian, en IndyCar, c'est Nashville. Nashville qui arrive. Alors la ville de Nashville fait son retour, puisqu'il y avait déjà eu... Non. Si, il y avait peut-être déjà eu, je crois, sur de l'IndyCar à Nashville, sur l'Oval. Mais en tout cas, on a le circuit urbain, un circuit urbain, un de plus, qui fait son apparition au calendrier.
C'est l'un des sacrées pistes. Hein.
Oui,
il y a de très longues lignes droites, de gros freinages. À voir dans la réalité si ça offre des opportunités de dépassement. D'après le schéma, c'est une piste qui me plaît bien.
Ouais.
Tu paraissais un peu sceptique dans tes premiers commentaires, mais...
Faudra voir, parce que ça reste quand même un circuit urbain. Pas le type de circuit qui est le plus, on va dire, spectaculaire en termes de dépassement. Et puis, des longues lignes droites, des virages à presque angle droit. Ouais, à voir. Mais par contre, moi, je suis beaucoup moins enthousiasmé par le tracé que Lilian, il semblerait.
Bah écoute, je suis en train de rechercher en même temps, mais les derniers tracés qui sont arrivés en IndyCar, ils ont quand même pas fait long feu, les tracés urbains. Je pense à Houston, par exemple. Celui-là, vous l'aviez peut-être oublié. Baltimore.
Baltimore avec les rails du tramway.
Non, c'était San Jose. Ah oui, il y avait aussi des rames de tramway à Houston.
Ils étaient obligés de mettre une chicane dans la ligne droite des stands pour ralentir et passer.
Ah ouais, exact. Ouais, les voitures, elles faisaient des bons.
Carrément.
Il y avait Baltimore. On avait eu San Jose aussi qui avait fait un flop. Moi, à l'époque, c'était le Champ Car. C'est peut-être pour ça. Ou c'est pareil, il y avait une histoire de rail de tramway à passer, ils avaient mis une chicane limite avec des cônes.
Mais pourquoi ils sont pas retournés à Nashville sur l'ovale plutôt que de créer un circuit urbain, je pourrais dire tout pourri parce que on n'en sait encore rien. Mais le tracé, l'ovale de Nashville est plutôt sympathique de ce que je me rappelle.
Oui, mais bon, ils avaient peut-être pas envie de copier la NASCAR.
Ouais, mais on se plaint
et
de
puis, enfin, ces ovales un peu intermédiaires en IndyCar, enfin, tu le vois, c'est souvent flat out et il se passe pas grand-chose, quoi.
Ouais, mais on se plaint tout le temps depuis des années qu'il n'y a pas assez d'ovales au calendrier d'IndyCar. Et là, on continue à ajouter des pistes routières et ou urbaines.
C'est pas forcément des ovales d'un mile et demi qui nous font en IndyCar.
Ah, je dis pas le contraire, mais il fait un mile et demi, Nashville, il est pas un peu plus petit?
Il fait 1,33.
Après, tu sais, je te rejoins, Loïs, dans tes propos. Le nerf de la guerre, tu le sais, c'est l'argent. Et les sponsors, ils sont peut-être plus enclins à mettre de l'argent pour un circuit urbain qu'un ovale, malheureusement.
Ouais, donc bon, eh ben, réponse l'année prochaine. Je n'ai plus la date de Nashville, je crois d'ailleurs. Si, ça a été annoncé, c'était... C'est début août. C'est ça, c'est début août.
Si tout va bien.
Est-ce que ça remplacera une date? Est-ce que ce sera un nouvel ajout? Est-ce que ça sera une course qui sautera? Parce que d'ici là, on aura remanié 25 fois le calendrier. Un peu trop tôt pour le dire, mais voilà. On attend, pareil, le calendrier IndyCar, possiblement d'ici la fin du mois. Donc, possiblement d'ici la semaine prochaine. Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Eh ben, j'aurais deux j'aime pas cette semaine. Le premier, ça va être, suis mon regard Geoffroy, les personnes qui râlent quand un site d'information sportive publie des informations en temps et en heure.
Ah mais arrête, c'était mon j'aime.
Eh ben, tu le reformuleras à ta façon.
Salopard.
Et tu vois, je suis politiquement correct en plus.
Ouais, c'est moche quand même. C'est moche.
Et mon deuxième, j'aime pas, c'est de me prendre une enceinte de quasiment 30 kilos sur le pied.
Aïe!
Bah alors?
Bah ouais. Et l'enceinte ou le pied?
Ah, c'est l'enceinte.
Ah mince.
Et c'est pas grave, du coup, j'étais posé devant les 24 heures, c'était très bien.
Mais il n'y avait pas de son. Aloïs?
Bah, j'ai commencé avec mon j'aime pas. J'aime pas le clavier de mon Mac qui commence à lâcher doucement et notamment la barre d'espace qui appuie régulièrement deux fois alors que j'appuie qu'une seule fois avec mon doigt. Et les utilisateurs de Mac savent très bien ce que ça fait. Donc ça crée un point final à la fin d'une phrase pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, j'ai des points qui se fourrent partout dans mes phrases. Et ça me saoule beaucoup.
C'est moche, c'est très très moche.
En appareil à ce prix-là, c'est bête.
ouais, beaucoup.
Change de barre d'espace, quoi. Donc en fait, change d'ordinateur.
Et mon j'aime, une petite introduction à la NASCAR, puisque je sais qu'on va en parler, mais c'est l'arrivée de Michael Jordan en NASCAR et surtout en Cup. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à l'heure actuelle de l'impact que cette décision aura sur l'avenir de la NASCAR. Je n'en dis pas plus, je pense qu'on en reparlera d'ici quelques minutes.
Non, on n'avait pas prévu de parler de basket dans l'émission. Donc, en général, on parle cyclisme, mais on parle pas basket.
On parle déjà assez vélo, c'est bien.
Je crois qu'il y en a un qui en a marre.
Ouais, c'est bon, le Tour de France est fini.
C'est pas faux. Mon j'aime, vous savez quoi? Ce week-end, c'est Las Vegas et c'est nocturne.
Donc, je crois que tu vas te faire pourrir.
Je m'en fous. Je m'en fous, mais royal. Si les gens, ils n'ont pas compris ce que c'était US Racing, ils viennent pas.
Surtout que c'est pas la première fois et c'est pas comme si on l'avait déjà dit.
Bah oui. Donc, et l'info qui sert à rien, messieurs, parce que j'ai pas de j'aime pas. L'info qui sert à rien, ben figurez-vous que lors de la course de truck de Bristol de la semaine dernière, pour la première fois de l'histoire, un Sam a gagné.
Je trouve pas que c'est une info qui sert à rien, pour être honnête. C'est une vraie info.
Enfin, c'est une info qui sert à rien venant d'une salle de merde, quand même.
Est-ce qu'il avait bu, Sam?
Ah bah ça, sûrement sur la Victory Leg, oui. Mais...
Oh, vu son âge, je pense pas.
Ah, une Red Bull.
Ouais, voilà.
Non, on n'a pas dit quoi. Hein. Effectivement, il a 17 ans. Donc voilà, alors que des Sam qui ont gagné en Xfinity, il y en a, et en truck, il peut y en avoir aussi. Non, en truck, en cap. Donc voilà pour l'info qui sert à rien. Lilian, on va commencer la page NASCAR par Bristol. On fera les actualités juste après.
Yes.
Oui, Bristol, qui était donc la dernière course du premier tour des playoffs.
C'est ça.
Avec 4 pilotes qui allaient être éliminés à l'issue de cette course. Et donc, on connaît ces 4 pilotes.
C'est resté les 4 mêmes, en fait. Hein.
Qui vont rester les 4 mêmes et qui vont aller à Las Vegas en ayant un petit peu les boules, si l'on en croit l'un des éliminés, sur une vidéo postée par la Fox, Aloïs.
Ah oui, très bonne vidéo promotionnelle en référence à The Hangover, donc en français, mince.
Very Bad Trip.
Very Bad Trip, quand... les quatre asticots se rendent à Las Vegas dans le premier épisode de la trilogie. Blaney et il y a Clint Boyer se fout de la gueule de Ryan Blaney. Est-ce que c'est vrai dans la réalité? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était marrant.
C'est vrai. Donc Ryan Blaney, on l'a dit, fait partie des éliminés, tout comme Cole Custer. C'est bien ça, Lilian?
Je dis pas. C'est ça, c'est ça. Vas-y, vas-y.
Non, parce qu'en fait, je t'avouerai, là, je le faisais de tête, j'ai eu un petit doute. On a William Byron et Matt DiBenedetto, c'est ça.
Bah, des quatre, il y a quand même une énorme surprise. Ça reste quand même Ryan Blaney.
Bah, il y a une surprise, oui et non. Oui, parce que sur la saison régulière, ça faisait au moins deuxième tour, voire troisième tour. Mais depuis le début du... Depuis le début des playoffs,
c'est mérité.
Il a pratiquement pas marqué de points de bonus de segment, déjà, alors que c'était le pilote qui avait marqué le plus de points de bonus sur l'ensemble de la saison régulière. Et c'est bien ça, sur le premier tour des playoffs, il a fait zéro.
Bah, de toute manière, il était à chaque fois en difficulté tôt dans les courses, donc forcément, il a jamais marqué de points sur les deux premiers segments.
Ouais, effectivement, ça ne l'a pas aidé. Et donc, bah, Ryan Blaney qui passe à la trappe, et on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, c'est un Ryan Blaney qui passe à la trappe un petit peu au profit d'un Austin Dillon qui s'est totalement révélé.
Désolé.
c'est pas grave. Austin Dillon, donc, qui s'est totalement révélé pendant ce premier tour des playoffs avec des performances de plutôt bonne facture qui lui assurent une place totalement méritée pour le deuxième tour, Lilian.
Maintenant, tu l'as dit, oui, je crois qu'il termine dans le top 10 dans les deux premières courses. Ça a été un peu plus compliqué pour lui à Bristol, mais complètement mérité, c'est clair. Enfin, j'ai envie de te dire comme un Bowman, hein, que...
Enfin, ouais, ça a été compliqué à Bristol.
Je suis pas d'accord.
Le drapeau jaune en pleine salle d'arrêt fout bien le bordel, quand même.
Oui, comme plusieurs pilotes.
Ouais, ça fait partie du jeu aussi, hein.
Austin Dillon souffre de ce drapeau jaune. Et au final, avant ce drapeau jaune, il était, pour la majeure partie de la course, dans le top 10.
Oui.
Oh, il a tout le temps été dans le top 10, hein, pour moi, mon
gars. Ah, une grande partie, quand même. Je me souviens, il était en fond de top 10, ou aux alentours de 9, 10, 11, certes. Mais il était présent, et il tenait bien la barre. Et au final... il se fait avoir avec ce drapeau jaune, comme je pense on peut rajouter Di Benedetto, Kurt Busch se fait avoir avec Bowman également. Chase Elliott, moins, il finit quand même 7ème au final.
Non, il termine à un tour.
Il termine à un tour, ils sont 6 dans le tour.
Qui n'a pas fini à un tour?
Les 6 pilotes.
Les 6 premiers.
Et dans les 6 premiers, il y en a que quoi
9 à finir.
Qui sont en playoff.
Clint Boyer, Arik Almirola, Kyle Busch et Kevin Harvick. 4.
Ah, c'est Eric Jones le seul, ouais.
Et Tyler Reddick.
Mais au final, le 10e termine à 2 tours. Et le 10e est à 3 tours. Ce qui est quand même remarquable.
Ah, mais les longs drapeaux verts ont fait très très mal.
C'est souvent aussi le cas à Bristol. Il y a eu des longs drapeaux verts avec des retardataires qui n'y ont pas mis du leur. Hein.
Paraîtrait-il.
On va y revenir juste après. Mais voilà, non, mais après, c'est Bristol. On peut avoir des longs segments sous verts. Et bah forcément, ça écrène très très vite le peloton et termine à 6 dans le tour à Bristol. C'est vrai que ça fait sourire parce que 6 pilotes, c'est très rare qu'on ait ça sur les autres courses de la saison. Mais pour du Bristol, sans être du classique, c'est pas une aberration.
Bah, c'est parce qu'on est quand même habitué à avoir, alors pas forcément à Bristol, mais en tout cas des fins de course à hacher. Donc forcément, ouais. Ça remet pas mal de pilotes dans le tour, avec la règle du Lucky Dog notamment. Et c'est vrai que là, bon, comme toute la fin de course s'est déroulée sous verre, bah voilà, forcément, il y en avait deux devant qui allaient très très vite, et puis bah ça a fait mal au classement.
On a un drapeau jaune en 240 tours.
Par contre, ce que je trouve l'aberration de cette course, c'est qu'au final, elle a été placée en tant que troisième course des playoffs, donc la dernière du premier segment, pour foutre le bordel dans la course aux playoffs. Et je pense qu'elle n'a servi quasiment à rien de ce point de vue-là. Parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de changement pour les trois pilotes éliminés. Et surtout, à la mi-course, on avait très bien compris qui allait être éliminé et qui allait être qualifié. Dernière partie de course était totalement insipide de ce point de vue-là. Et je pense que c'est ça la plus grande surprise de cette course nocturne à Bristol.
C'est sûr que par rapport à Darlington, c'est un peu le jour et la nuit. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On l'a dit, enfin William Byron en étant cartonné rapidement, bah, on savait qu'il passerait pas. Ryan Blaney, en n'arrivant pas à nous faire une performance majuscule, bah, on savait que c'était compliqué. Et les deux autres, Colcaster, Matt Di Benedetto, on savait qu'il fallait une victoire, quoi.
Donc, il faut surtout faire du dernier drapeau jaune. Di Benedetto, si je dis pas de bêtises, était quasiment dans le top 5 au moment de l'arrêt au stand sous vert.
Ouais, mais il fallait une victoire. C'est mais un top 5, bah, c'est pas quoi. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça.
Et puis, c'est logique. Très honnêtement, c'est logique pour Di Benedetto.
Et puis, c'est aussi un petit peu le lot de ce premier tour où t'as des écarts quand même qui sont assez colossaux en termes de points déjà dès le départ entre les premiers et les derniers. Et l'écrémage se fait quand même assez naturellement sur le premier tour. T'as une surprise. Oui, ça, c'est. Tu les perds par l'arrière. Et hormis Ryan Blaney, globalement, on avait vu venir à peu près tout le monde.
Et c'est possible que le même scénario se répète au second tour.
Bah, tu sais que...
Ils sont vachement assez les équipes. Ouais, non, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Ah bah quand même, Harvick, Hamlin, Keselowski, ils ont quand même un sacré paquet de points d'avance. Bah,
Harvick oui, a une course d'avance, hein.
Mais les autres, ils sont, t'en as 6 ou 7 en 20 points.
T'en as de Kurt Busch 12 à Keselowski 5 à 20 points.
Ouais, de Joey Logano 4 à Kurt Busch 12, ouais, t'as 21 points. Enfin, tu peux. C'est deux segments. Hein.
Mais au final, il n'y avait pas tant de différence au premier tour, hein, entre le premier et le dernier. Hein.
Non, c'est sûr.
Entre le dernier et allez, quoi, le 4-5e, on a dit la même chose. Hein.
Mais là, ce qui est hallucinant, c'est Kevin Harvick qui a déjà une course d'avance.
Bah, deux victoires hein, pendant les playoffs.
Et donc, ouais. il peut se permettre un très mauvais résultat à la dégâts. Ça le préserve totalement pour passer au troisième tour.
Ah bah, Kevin Harvick, son plan de bataille, il est simple. Tu tiens la barre ce week-end à Las Vegas. T'as la dégâts, tu te mets en fond de paquet, tu laisses les autres se cracher, hop, tu passes à travers les gouttes.
Ouais, tu fais ce que tu veux.
Charlotte, voilà. Sur le Roval, tu fais pépère, tranquille, comme il l'a fait sur la dernière course routière. T'évites les embûches, tu fais un milieu de peloton, on n'en parle plus, fini.
Oui, sans forcer, il se qualifie, c'est clair.
Et Denny Hamlin, celui-là, je le vois deuxième, on va revenir après sur Bristol, mais premier tour quand même, compliqué. Enfin, c'est pas Denny Hamlin, c'est pas. Il n'y a pas 6 victoires en saison régulière. tu serres peut-être un peu plus les fesses en fin de premier tour.
Ouais, c'est certain. Ouais. Après, je crois qu'à chaque course, il y a eu des soucis, non ? Bristol, oui, c'est certain. Avec oui. Martin Truex Jr. qui se loupe complètement en sortant des stands.
Richmond, oui, et puis...
également. Et Darlington, c'était pas fameux non plus.
Ouais. Ah bah, c'est sûr que quand tu vois ses résultats par rapport à Harvick, c'est le jour et la nuit, clairement.
Harvick qui a déjà mis deux victoires en play-off.
Ouais, 2 sur 3 pour l'instant.
C'est ça, qui doit être à 5 victoires sur les 9 dernières courses.
Et qui s'affiche clairement comme le grandissime favori pour la couronne.
Ah, oui. S'il y avait un doute encore...
Oui, voilà, pour ceux qui pouvaient hésiter entre Hamlin et Harvick, il n'y a qu'à voir le premier tour. Et j'aurais même envie de te dire, cette fin de course à Bristol, quand tu vois quand même comment Harvick a bataillé avec Kyle Busch, c'était quand même du très très haut niveau et Kyle Busch n'a rien pu faire.
Ah, c'est ce que j'allais dire, demander à Kyle Busch ce qu'il en pense de la domination de Kevin Harvick. Hein.
Quand on sait, quand on connaît ceux qui suivent la NASCAR depuis un petit moment, quand on connaît les stats de Kyle Busch à Bristol, s'il y a bien une piste qui lui réussit, c'est celle-là.
Et là, il avait vraiment tout fait pour aller chercher la gagne, Kyle Busch. Je ne pense pas qu'il pouvait aller faire mieux. C'est juste que la voiture de Harvick était encore meilleure, un cran au-dessus de tout le monde. À Bristol, c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est que Bristol, c'est vraiment pas le jardin de Kevin Harvick. Au contraire, il n'a jamais été extrêmement performant. Et là, il avait clairement la meilleure voiture. Il était imprenable. Et ça montre réellement la surdomination de l'écurie 4 cette saison.
Ah bah sur la fin de course, clairement, je mettais avantage Kyle Busch.
Il avait même
on le voyait aller au bump pour le sortir, quoi.
Bah, quand il passe devant là dans les retardataires, je me dis c'est bon, c'est fait pour Kyle Busch. En fait, non. 10 tours après, il y a Logan Hill qui fout la merde. Harvick repasse et c'est fini l'histoire, quoi.
Ouais.
Donc voilà, ça s'est bien enchaîné pour Kevin Harvick. 9 victoires, il peut devenir seulement le 3e pilote. Du quart de siècle à comment avec au moins 10 victoires dans une saison.
Ah, c'est faisable là. Hein.
C'est comme faisable. Parti,
il est à 9 pour préciser.
Oui, il est à 9. Il lui reste Phoenix, il lui reste Vegas, il peut gagner. En fait, où est-ce qu'il peut pas gagner là ? Où est-ce qu'il peut pas gagner cette année ?
Bah, le Roval.
Oh, Talladega, ils vont pas aller chercher la gagne à Talladega.
Je pense que les courses routières, ils s'en bat les steaks complètement. Donc le Roval, il passe à la trappe directe. Ça, je t'annonce à 200%.
Bah écoute, on verra bien. Mais oui, après, voilà, Kevin Harvick, c'est quand même un pilote qui est capable de gagner partout. On verra bien. Alors, on va revenir un petit peu sur cette course de Bristol. On en a un peu parlé en filigrane. La lutte pour la victoire a opposé Kevin Harvick à Kyle Busch. Tout simplement, les deux pilotes qui ont le plus mené de tours sur la course, encore une fois, 226 pour Kevin Harvick, donc pratiquement la moitié, 159 pour Kyle Busch. Kyle Busch, quand même, qui est parti de l'arrière du peloton suite à une voiture non conforme lors de l'inspection d'avant-course. Il a réussi à remonter tout le peloton.
Et il remonte avec une facilité, c'est impressionnant.
Le premier segment, c'était masterclass.
Il se balade. Enfin, c'est là que tu vois tout le talent que Kyle Busch a sur cette piste. Il a vraiment quelque chose, quoi.
Mais c'est on est d'accord.
Il remonte tout le peloton en. C'était 100 tours le premier segment.
125.
125 et le deuxième segment, il passe quasiment tout le segment à le mener.
Ouais.
Ce qui est fou en sachant qu'il est parti 40e. Ouais, à Bristol. On parle pas d'un super speedway ou même d'un oval d'un mile, mais on parle de Bristol.
Et avec une seule neutralisation pendant le premier segment.
En plus.
Le drapeau jaune de compétition.
Et c'est ce qui me confirme dans mon jugement d'il y a quelques semaines que je me faisais pas forcément de soucis par rapport à Kyle Busch et son niveau en piste. À nouveau, il avait peut-être la voiture pour mener, mais il y avait quelqu'un d'encore meilleur. Sur cette piste à Bristol, Kevin Harvick.
Pourtant, c'est pas ce qu'il dit en interview.
Oui, voilà, c'est pas ce qu'il dit. Clairement, je suis assez d'accord avec Alex.
C'est Kyle Busch, on le connaît.
Il avait une excellente voiture. C'est l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur à Bristol. Mais il y avait des retardataires qui l'ont mis chafouin. Lilian Pour toi, là, c'est de la faute d'Ayrton Dattaire, c'est de la faute de Kyle Busch, c'est juste la faute de Bristol, parce que c'est Bristol et que c'est compliqué de doubler des retardataires avec cette trajectoire particulière.
Les retardataires, c'est à double tranchant. Des fois, ça t'avantage pour doubler. Des fois, ça peut malheureusement se mettre sur ta trajectoire et ça te désavantage. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait partie de la course. C'est Bristol, clairement, c'est Bristol.
Et honnêtement, le petit Kyle Busch abuse un petit peu sur ce coup-là parce que, si je dis pas de bêtises, question rhétorique évidemment, mais est-ce que Kyle Busch ne s'est pas aidé d'un retardataire pour dépasser Kevin Harvick dans les derniers tours?
Ah bah si.
Ah bah si, on est d'accord. Donc, c'est bien quand ça l'arrange que les retardataires...
Et comme en plus il y avait Logano dans le tas...
Ça, c'est ça l'a surtout énervé parce qu'il y avait Logano, à mon avis.
Il y avait Logano, où il a 29 courses sans victoire. Bristol, je ne vais pas dire que ça représentait sa dernière chance de la saison de gagner, parce que c'est pas vrai. Mais voilà, tu sens que cette année, ça y est arrivé de passer au travers de certaines courses. Il te dit lui-même qu'il va sortir des playoffs au deuxième tour. Et je crois que dans les pronostics qu'on a fait en interne, on est au moins deux à le mettre dehors au deuxième tour.
C'est
donc,
ça.
Bon. Voilà, après, faut espérer pour Kyle Busch que toutes les planètes s'alignent. Mais là, pour moi, c'est plus lié à Bristol et lié au fait aussi, on n'en a pas parlé. Pourtant, Aloïs, je suis très, très étonné, toi qui as regardé la course avec assiduité.
Ouais.
Que tu n'aies pas ouvert ta gueule à ce sujet.
Oula.
Bah oui. Non mais attends, il y avait du PG One. Ça a parfaitement fonctionné pour la Xfinity le vendredi soir et ça a pas fonctionné pour la Cup samedi soir. C'est con.
Ça a pas fonctionné pour toi?
Non.
T'avais deux trajectoires.
On avait deux fils. On avait deux lignes sans problème.
On s'était pas mis d'accord la dernière fois à Bristol que le nouveau Bristol c'était deux lignes. En bas et en haut, qui étaient compétitives l'une et l'autre et qui pouvaient être interchangeables en...
Alors pourquoi quand tu mets du PG1 en Xfinity, tu ne te retrouves plus qu'avec une seule ligne à l'intérieur, ce qu'aiment les fans?
Ah bon?
Ah oui, revisionne la Xfinity, hein, c'était tout à l'intérieur et fallait bumper pour passer.
Bah moi, honnêtement, c'est parce que je kiffe le plus à Bristol. Avoir deux lignes parallèles dans les virages, je trouve ça beaucoup plus intéressant puisque tu as beaucoup plus de side by side et de possibilités de dépassement. Franchement, pour moi, Bristol, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2020, Bristol, c'est deux lignes, ce n'est pas une. Ça, il faut remonter 20 ans en arrière.
Ah oui,
et
c'est
si
clair.
Les gens sont intéressés à remonter 20 ans en arrière, bah, c'est leur problème.
Mais, c'était ouais, mieux avant.
Ouais, puis ça les intéresse parce qu'il y a eu des crashs. Tu reprends la Monty Earnhardt, des choses comme ça, ou Earnhardt Wallace.
Ah, mais ça, c'était une époque où Bristol, t'avais 20 000 places autour de l'Oval. C'est un autre temps.
Ouais, je sais, Bristol, mais c'est ce que...
Ouais. Comme si tu veux un pen run, tu vas à Martinsville, tu vas pas à Bristol.
Mais attends, c'était un autre temps, mais t'avais les tribunes qui étaient pleines.
Là, elles ne sont pas pleines pour une raison. Certes,
Non.
C'est pas nouveau.
Tu prends l'année dernière, il n'y avait pas le coronavirus, t'as à peu près autant de monde en tribune. Hein. J'exagère un petit peu, mais pas loin.
Mais en tout cas, le PG1 pour faire fonctionner deux pistes, deux lignes, bah ouais. Parce que sans PG1, on sait très bien qu'en Cup, tu as uniquement la trajectoire haute qui est supérieure à celle du bas. Là, tu as deux trajectoires et je pense que la course était beaucoup plus intéressante. Certes, ça s'est repéré avec moins de drapeaux jaunes, du coup, une course plus fluide, mais personnellement, je ne l'ai pas trouvée moins intéressante que d'habitude.
Ah, j'ai pas dit qu'elle était moins intéressante. Mais voilà, quoi, c'est juste que tu avais du PG1 pour, à la base, faire une trajectoire à l'intérieur qui, finalement, ça a juste été un ajout, alors qu'en Xfinity, ça a été que de l'intérieur. C'était juste un constat que je faisais. Et voilà. J'ai mis 2 euros dans le jukebox, en fait, et t'as fait 10 minutes.
De toute manière, ce sera un débat sans pitardelle.
Effectivement. Donc, Kevin Harvick, Kyle Busch, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question.
Harvick est supérieur à Kyle Busch cette saison.
C'est ça. Et Kyle Busch, il a beau tout tenter.
Mais c'est son sixième, C'est son sixième top 3 de la saison au final. Hein. Combien de possibilités lui ont filé sous le nez depuis Daytona?
Un 6.
Un bon paquet. Hein. Et même si t'augmentes aux 4, 5, 6e place, on a fait la liste il y a quelques semaines, mais quelle bouche peut se mordre les doigts. Et malheureusement, je pense que sa série de 15 saisons avec une victoire va s'arrêter à 15.
Ok, bah voilà, c'était ma question, t'as répondu. Lilian ?
Ouais, je le rejoins, il est tellement... Bah, ouais, il est pas dedans, je pense que c'est pareil, je le vois pas gagner sur cette fin de saison.
Ceci dit, ce serait très Kyle Busch de gagner à Phoenix.
En n'étant pas dans les 4 ?
En n'étant pas dans les 4 et de gagner à Phoenix pour faire chier les autres, ce serait très Kyle Busch.
C'est vrai que ça pourrait être très drôle.
Et il pourrait bien mettre le bazar en gagnant à Phoenix et pourquoi pas embêter un de ses coéquipiers qui sera en finale, par exemple.
Ah.
Oh.
Attends, t'imagines ? T'imagines Denny Hamlin leader, Kyle Busch deuxième, Kevin Harvick troisième, et Kyle Busch qui pousse Hamlin pour passer, et ça permet à Harvick de s'intercaler deuxième et d'aller chercher le titre.
Ah, mieux. Moi, j'ai Harvick premier, Kyle Busch deuxième, Hamlin troisième, Kyle Busch qui sort Harvick furax et qui fait gagner Denny Hamlin pour le titre. Enfin, qui donne le titre à Hamlin.
Ouais, non.
Ah, j'aimerais bien le scénario de Geoffroy, moi, pour une petite crise interne chez Joe Gibbs.
Ouais, quand même, Harvick qui loupe le titre après sa saison exceptionnelle, je dis pas non plus, hein.
C'est pas faux. Alors, messieurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Bristol. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qu'on aurait oublié, enfin, qu'on n'aurait pas forcément
Eric
mentionné. 3e. Oui, Eric Jones.
Troisième top 5 sur les trois dernières courses. Le ouais. Petit Jones est en
ouais,
train.
Ouais, ça arrive un peu tard, malheureusement.
C'est
ouais,
ça.
Je pense qu'il est en très bonne position pour récupérer un volant intéressant l'année prochaine. Tout du moins, ça prend la bonne voie si on prend ses performances.
Penses-tu qu'il fait le beau pour aller chez Hendrick ?
Tu penses qu'il prend le volant de Salami Jobler ?
C'était
très drôle cette publication.
Il montre qu'il a niveau pour rester en Cup.
Oui, effectivement. Pour ceux qui n'auraient pas compris la blague, c'est... là, Hendrick qui a publié donc ses diecast pour 2021. Donc, il y a une numéro 48 sponsorisée par Ally et elle a mis plein de petits noms assez sympathiques.
Un peu random.
Ouais, voilà.
Complètement imaginaire, oui.
Complètement imaginaire, mais bien sympathique pour chacune des voitures qui étaient présentées. Je crois que c'était sur la boutique de Lenskart.com de mémoire.
Et pour brouiller les pistes pour le prochain remplaçant de la 48.
Mais il se murmure quand même que ça serait Kyle Larson.
Bah écoute,
ce serait couillu.
On va refermer la page Bristol et Las Vegas. Hein, donc ils sont plus que 12 pour le titre, on est d'accord. Las Vegas aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi pour nous en France. Les horaires ont déjà été indiqués sur le site. Et on va passer du coup à l'actualité de la NASCAR, puisqu'il y a énormément de choses cette semaine. Avant de commencer par le marché des transferts, parce que ça va encore nous faire 3 heures, on va tout de suite parler du circuit qui arrive au calendrier de la Cup, qui est le circuit des Amériques à Austin, au Texas, Lilian. Un cinquième circuit routier pour l'ensemble de la saison, puisqu'on aura... le clash le mardi précédent et Daytona 500 sur le routier de Daytona. On aura Watkins Glen, a priori. Sonoma, a priori aussi. Charlotte, le routier. Et donc, le circuit d'Austin au Texas.
Écoute, je vais te redire ce que j'ai dit tout à l'heure quand Saint-Louis, je crois, nous a annoncé la nouvelle. C'est qu'on va bientôt se retrouver avec un calendrier qui va ressembler à l'IndyCar. C'est-à-dire qu'on aura 2 ou 3 ovales qui vont se battre en duel et puis des courses routières, quoi, si ça continue. Qu'on ait des courses routières en NASCAR, je suis pas contre, au contraire. Mais on disait que 2, bon, allez, on pouvait en ajouter une 3e, on arrive à 5. Je trouve que ça commence à faire beaucoup et alors en plus, rajouter.
Oh là 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 là, ça commence à faire beaucoup.
Ouais, non, puis Kota, on en a déjà parlé. Il y a des circuits quand même un petit peu plus sympathiques aux États-Unis que Kota, quoi.
Je te rejoins sur ce point. Ceci dit, ça fait plus de 10 ans qu'on se plaint qu'il n'y a pas assez de pistes routières. Et là, Monsieur Lilian se plaint qu'il y en a une 5e sur un calendrier à plus de 40 courses.
Ah non, 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 ouais. 3 c'est bien, 4, non, 5, faut arrêter les conneries.
Ouais,
c'est là, ça, il y en a une qui n'est même pas au championnat de saison régulière.
C'est, ça nous enlève 4, le Texas, hein.
Bon.
Et ça nous enlève une course au Texas, sur le Texas Motor Speedway.
Oui, moi, ça me fait chier par rapport à ça, par rapport à la course au Texas. Parce que le Texas
attends, on réécoute les bandes, hein. L'autre fois, c'était une course PJ One, c'était de la merde.
Je me suis plaint du PJ One, certes, comme toutes les courses du PJ One. Mais,
mais c'est parce que ça me fait chier pour le Texas, quoi.
Mais en fait, non, mais le Texas, s'il y avait une course d'un mile et demi à enlever, j'aurais pas enlevé le Texas.
Alors, t'aurais enlevé lequel?
Laisse-moi regarder pour que je dise pas de bêtises.
Chicago Land, Kentucky.
Atlanta, Homestead, Las Vegas.
Alors.
Kansas.
Et puis là, il va dire Pocono.
Ouais, Kentucky, je serais pas contre à l'enlever. Ouais, Kansas, on a deux. Je pense qu'une, ce serait pas idiot. Charlotte, ouais, bon, c'est quand même sa sonde à NASCAR, on est d'accord.
Charlotte, il n'y en a qu'une.
Chiant, c'est chiant, Charlotte.
Mais il n'y en a qu'une, c'est les 600 miles. Mais après, c'est.
Ah, et puis comme tu dis, c'est la maison, hein, de toute manière.
Ouais, c'est la maison, de toute manière. Après, je regarde le calendrier 2019, mais bon, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il est un petit peu bizarre.
Il a un petit peu changé aussi.
Il a un petit peu changé entre temps.
Ouais. Mais bon, voilà, ouais, t'as le quota.
Il y en a plus qu'il... que. Il y en avait deux, ouais, tu peux en laisser une.
Alors, si on devait choisir une piste.
Tu peux en enlever une.
Qui ça que t'as dit?
Michigan, tu peux en enlever une, parce que c'est un peu chiant aussi. Michigan, certes, c'est un 2 miles, mais tu remplaces quota par. Tu remplaces Michigan par quota, moi je dis pas non.
Alors, du coup, si ça devait pas être le circuit des Amériques d'Austin, vous mettriez quoi en circuit routier, si vous aviez le choix?
Elkhart
Lake. Urbain, hein, on sait jamais.
Elkhart Lake.
Moi, je mettrais bien Montréal, tu vois.
Ah, carrément, toi.
Ah, bah, ça permet d'aller un peu à l'étranger. Le circuit Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, il est plutôt cool. En Xfinity, on a vu que ça frottait un petit peu des épaules. Et puis, il y a de grandes chances qu'il pleuve.
C'est ce que je veux dire. Faut le balai pour nettoyer le pare-brise.
C'est ça, comme faire les droites, à la bonne époque.
C'est ça. Eh ben, écoutez, je vais vous surprendre. Je vais dire une troisième piste, mais parce que j'adore cette piste, c'est Road Atlanta.
J'y avais pensé aussi.
Road Atlanta, ouais, je suis d'accord également. Après, faut faire attention, faut dire à Keselowski de s'arrêter avant les murs.
Ou de pas freiner avec la cheville.
Ouais, parce qu'en général, le mur gagne.
C'est ça, ouais. Voilà un petit peu donc pour la partie circuit. Et on va passer à tous ces transferts, puisque les choses ont bougé très très rapidement entre Bristol et l'enregistrement de l'émission avec Lilian, la signature d'un pilote dans la 42 de la Chip Ganassi Racing pour prendre la suite de Matt Kenseth qui avait remplacé au pied levé un Kyle Larson viré. Ce sera finalement Ross Chastain
l'homme qui n'aime pas les citrouilles, c'est pas les citrouilles, c'est les pastèques.
C'est les pastèques, oui.
L'homme qui jette des pastèques par terre quand il gagne.
C'est ça, la confrérie des pastèques pourrait faire la gueule en 2021.
Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est un retour aux sources pour Roche Chastain, puisqu'il était dans l'écurie en Xfinity, c'était il y a 2 ans.
Oui, bah il devait faire la saison complète en 2019 en Xfinity. Mais il y avait eu un problème avec le sponsor.
Avec TC Solar, ouais.
Qui a fait, TC Solar, qui. Ouais. Enfin, il y avait eu un raid du FBI, comme ils appellent, une saisie du FBI, une enquête du FBI, qui avait accouché un petit peu de la fin de TC Solar et donc de la fin du sponsoring de Roche Chastain en Xfinity. Donc ça s'était très mal fini pour Roche Chastain qui n'avait pas pu concourir à temps complet dans la deuxième division.
Et donc, moi, je trouve que c'est... Je suis content, tu vois. Je ne m'y attendais pas, clairement. Mais voilà, ça fait une nouvelle tête qui sera à temps complet dans la discipline. Enfin, en cup, du moins. Donc voilà, ouais, je demande à voir. Clairement, je demande à voir quel niveau il va avoir sur une saison régulière. Est-ce qu'il aura déjà les épaules pour aller, pourquoi pas, nous créer une surprise et être dans les 16 pour les playoffs? Je demande à voir.
Et tu vois, moi, je suis plus circonspect que toi, Lilian.
Ah.
On parle de Ross Chastain qui avait peut-être l'un des meilleurs volants en Xfinity cette année, tout du moins l'un des meilleurs. Zéro victoire, il a toujours été en lice pour la gagne, ça s'est jamais concrétisé, il s'est foutu plusieurs fois dans le tas alors qu'il avait quasiment la victoire entre les mains. Et on sait que Chip Ganassi, il veut des vainqueurs, hein. Il veut pas des secondes places, des troisièmes ou pire, des courses ratées. On connaît le loustic. Et Ross Chastain, on sait qu'il est agressif, mais ça se concrétise quasiment jamais en victoire. Donc ça me surprend un petit peu. Et d'autant plus que pour relever la 42 qui était une des favorites au titre avec Kyle Larson à son bord, là tu mets un pilote qui est quasiment inexpérimenté en Cup, alors que tu avais quand même pas mal de monde disponible sur le marché des transferts. En 2020, je suis un peu surpris et j'ai du mal à voir un succès immédiat avec Ross Chastain à son volant et encore moins une qualification dans le top 16 comme tu le soulèves éventuellement.
Bah, de toute manière, tu as dû voir l'info, Ross Chastain, ça reste quand même un second choix pour Chip Ganassi.
Ça veut dire que son premier choix s'est fait la malle.
C'était pas voilà.
Qui Tu penses que c'était lui son premier choix?
Ah bah, j'ai vu l'info passer.
Du coup, une belle transition, Lilian. Il va pas chez Ganassi, il reste pas chez Richard Petit Motorsports, il va dans la toute nouvelle écurie qui est créée, qui va naître sur les cendres de la German Racing, puisqu'il rachète le...
Ou sur la 13, en fait, ouais.
Puisqu'il rachète la place de Charter, donc ils sont sûrs d'être au départ de toutes les courses la saison prochaine. C'est l'écurie qui a été créée par Denny Hamlin et Michael Jordan, qui devient le second propriétaire afro-américain dans la première division de la NASCAR après Brad Doherty.
Tous les deux qui viennent de la NBA par ailleurs.
Oui, comme par hasard. Donc Michael Jordan qui diversifie un petit peu ses activités de propriétaire, Aloïs, puisque si je ne dis pas de bêtises, il est propriétaire des Hornets de Charlotte en NBA.
Propriétaire principal, j'ai un doute. Je sais plus s'il est minoritaire ou pas.
À l'époque, il était majoritaire.
Et ouais, j'ai un petit doute. Ceci dit, Michael Jordan, c'est une face, c'est un visage que l'on reconnaît dans le monde entier et qu'on n'associe pas forcément avec le basketball, tout du moins sa carrière de sportif. À l'heure actuelle, Michael Jordan. C'est un multimillionnaire, si ce n'est milliardaire. Je ne connais pas sa valeur totale, mais c'est une icône sportive, que ce soit d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue social. Et on sait qu'il a été assez vocal ces derniers temps. Ah, voilà, j'ai l'info, je la cherchais. Sa valeur est à 2,1 milliards.
Ah, mais ça, c'est parce qu'il a tourné avec Bugs Bunny.
C'est certainement pour ça, je pense. Je vois pas d'autres raisons.
Oui, d'autres raisons. Ça peut pas être ses 6 titres en NBA.
Non. Puis c'était un joueur médiocre.
Lambda. Ouais. Non, lambda, pas médiocre.
Lambda. Mais en tout cas, c'est un coup de vent frais sur la NASCAR. On en parlait il y a quelques semaines sur le résumé de l'évolution de la NASCAR après le confinement et les différents débats politico-sociaux qu'il y a eu en NASCAR ces derniers mois. Mais cette arrivée de Michael Jordan va directement dans la lignée de ces évolutions et de l'ouverture de la NASCAR sur le reste de l'environnement sportif aux États-Unis. Et l'arrivée d'un propriétaire afro-américain et surtout extrêmement populaire va aider la NASCAR à diversifier son public.
Surtout après les événements de Talladega.
Pardon ?
Surtout après les événements de Talladega.
Surtout après ceci. Et Denny Hamlin arrive en tant que copropriétaire, mais les deux pilotes, c'est des gagnants. Donc ça va insuffler une énergie immédiate à peut-être la numéro 13, ou du moins à la structure qui est créée. Et c'est une excellente chose pour Bubba Wallace également, puisqu'il a mené le combat, les combats sociaux et antiracistes depuis quelques mois, et il se retrouve avec Michael Jordan et Denny Hamlin, qui est qui participe à la qui est comment dire pas un porte-parole mais un j'ai plus le mot de la marque Jordan.
Un ambassadeur.
Ambassadeur, merci.
Ah bah oui.
Ambassadeur de la marque Jordan. C'est une excellente nouvelle pour la NASCAR et c'est ce que je disais dans le j'aime pas. Mais on va voir le fruit de cette arrivée d'ici quelques années, je le pense, tout du moins. Je suis pas devin, mais il y a moyen que ça bouge énormément de lignes et que ça permette de faire arriver des sponsors beaucoup plus mainstream. Puisque le système économique en NASCAR est quasiment uniquement basé sur le sponsoring, que ce soit des courses ou des structures et des voitures. Avec l'arrivée de Jordan en tant que marque et en tant que personne, ça risque de créer un effet boule de neige à mon sens et de ramener beaucoup de sponsors beaucoup plus connus du grand public sur la scène de la NASCAR. Je pense à Bubba Wallace, Columbia, donc une marque relativement connue aux États-Unis et même dans le monde entier, sponsorise Bubba Wallace à partir de 2021. C'est un premier signe.
Et puis pour Bubba, ce sera quand même pour moi un très grand pas en avant, puisque là, il va avoir quand même une voiture, faut pas se leurrer, ça va être une cinquième voiture Gibbs, même si officiellement la NASCAR interdit à un pilote de posséder une autre voiture, une écurie du moins. Mais bon, voilà, ce sera une Toyota avec du matos Gibbs. Donc là, j'ai hâte de voir ce que Bubba Wallace j'ai hâte de voir ce qu'il va nous montrer au volant d'une voiture compétitive.
Pour l'instant, on ne sait pas ni le numéro du pilote, ni le ou les sponsors principaux, ni le constructeur. Donc, tout porte à croire que ce sera du Toyota. Ni même le nom de l'écurie. Mais voilà. Du coup, messieurs, question subsidiaire, parce que c'est quand même un petit peu maintenant, ça devient un petit peu notre running gag. Qui dans la 48 ?
Lilian, tu disais qui, toi ?
Écoute, moi, d'après des infos que j'ai pu entendre sur Internet, Rick Hendrick serait en train d'essayer de se démener pour que Kyle Larson monte dans la 48. Alors, on le sait, c'est vrai qu'il y a pas mal de Chevrolet ne veut plus avoir Kyle Larson dans une de ses voitures. Après, voilà, Rick Hendrick est en train d'essayer de faire bouger les lignes pour le ramener. Ça serait un énorme coup de la part de Rick Hendrick, clairement. Mais j'ai envie d'y croire, parce que clairement, je partage les propos de Tony Stewart. Kyle Larson, je pense qu'il a fait... Voilà, il a payé sa dette. Et ça serait quand même dommage, si on met toute cette histoire de côté, de se priver du talent qu'est Kyle Larson. Quand on voit ce qu'il fait en sprint car, c'est quand même dommage de se priver d'un Kyle Larson.
Je te pose la question à l'envers. Est-ce que Chevrolet peut se passer de Hendrick ?
Non, c'est clair et net. Là, il n'y a même pas de question à se poser. Hein.
On voit déjà le résultat, on ne l'a jamais abordé, mais pour moi, si Chevrolet a été moins bon ces dernières années, c'est en partie dû au passage de la Stewartas qui est partie de Chevrolet pour aller chez Ford. Je pense que les résultats n'y sont pas pour rien. Très clairement. Donc non, Chevrolet, la Hendrick reste l'écurie de pointe. La Hendrick reste l'écurie de pointe pour Chevrolet.
Et Rick Hendrick va s'en servir s'il veut ramener Kyle Larson dans son giron.
Et puis en plus, Rick Hendrick a bâti sa fortune en étant concessionnaire Chevrolet ou du moins General Motors.
Donc, je crois qu'ils vendent aussi autre chose que des Chevrolet. Hein, parce que... Mais autre chose que du. Je crois qu'il a des concessions qui vendent autre chose, qui vendent du Ford, qui vendent du Toyota aussi. Mais oui, après, en NASCAR, il est badgé Chevrolet.
Et du coup, vous verrez qui, si ce n'est pas Kyle Larson, vous mettrez une pièce sur qui, puisque les noms s'amenuisent petit à petit.
À Eric Jones, sérieusement, ça sert à rien. Je crois pas une seconde. Enfin, si, c'est possible, mais il fera rien.
Pour toi, il fera rien.
À la Hendrick, non.
S'il n'est pas pris à la Hendrick, il va où, quoi ?
Exactement.
Je veux dire, regarde un Suarez. Ça n'a rien fait chez Stewart. Ça n'a rien fait chez Gibbs.
Oui.
Et voilà, il est grillé.
Il part de chez Gaunt.
On ne peut pas dire que Rick Jones n'a rien fait. Il a quand même des bons résultats. C'est pas oufissime, on est d'accord. Mais il est quand même un pilote solide. Et je pense qu'il est du même niveau qu'un à l'heure actuelle qu'un Clint Boyer, par exemple.
Ben oui, mais il a quand même quelques années de moins et ça a été un espoir porté par la Gibbs. Donc, c'est aussi ça qui fait un petit peu mal. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'un changement d'écurie puisse le faire grandir et le faire évoluer favorablement en NASCAR, un petit peu comme Joey Logano en son temps, quand il est passé chez Penske. Messieurs, je crois qu'en termes d'actualité transfert, on a fait le tour. Je pense qu'on a été complet jusqu'à la semaine prochaine pour la partie transfert. Ce que je vous propose, c'est d'en rester là. On va se donner rendez-vous ce week-end pour suivre toutes les courses de Las Vegas, y compris la course nocturne dans la nuit de dimanche à lundi en Cup, messieurs.
On va aller sur US Racing lundi pour ceux qui regardent la course sur Automoto la chaîne.
N'oubliez pas, la course, elle était à 1h du matin en heure française. S'il n'y a pas de pluie, bien évidemment, on est à Las Vegas. Tout peut arriver. Donc voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer tout ça, messieurs. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Bonne semaine, bye bye.
À la semaine prochaine et bon week-end de course.
Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.